Partez à la découverte des territoires et de ceux qui les dynamisent avec Parlons Territoire, une émission d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.
Salut les amis et bienvenue ici à Montpellier. On vous l'a dit, c'est une promesse. Nous allons de territoire en territoire. Nous avons posé notre caravane. On fait le Tour de France. Voilà, c'est le groupe qui va au contact des territoires. Le Tour de France qui nous permet de voir les amis aussi au plus proche des intérêts, au plus proche de ceux qui fabriquent la ville et les territoires. Ici aujourd'hui à Montpellier, on a beaucoup de chance. Il fait un ciel magnifique et on est entouré que d'amis et donc on pouvait pas rêver mieux. Et en plus, je vais vous dire les amis, nous avons un public avec nous. Alors ça fait plaisir. Voilà. Chaleureusement d'être accueillis sur le plateau. Avec mon complice avec lequel nous avons mené cette collection avec Arkéa Banque sur les territoires, il est avec moi. Bonjour Aurélien Deleu.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Aurélien ?
En pleine forme.
Est-ce que je peux décliner votre tout nouveau titre ?
Allez-y.
Vous êtes dorénavant directeur des marchés institutionnels et immobiliers. Bravo.
Merci Sylvain. Alors il faut peut-être expliquer ce que veut dire institutionnel parce qu'en fonction des banques, ça ne veut pas forcément dire
oui,
la même chose.
Absolument.
Donc je m'occupe depuis maintenant 6 ans hein, de tout ce qui est l'accompagnement des professionnels de l'immobilier hein, sur le territoire national. Et institutionnel chez Arkéa Banque, c'est tout ce qui va être le financement du secteur public local au sens large. C'est-à-dire qu'on accompagne hein, sur tous les territoires les collectivités locales, mais également leurs satellites, hein, qu'elles soient SEM, qu'elles soient organismes de logement social,
vous financez
mais également
les élus.
La santé publique.
Vous financez les élus locaux.
Exact, on finance les collectivités, voilà.
Oui, et les projets dans
les territoires.
J'ai pas dit que vous financez les campagnes, hein, mais voilà, vous financez les élus locaux. Ouais.
Et donc ça fait sens de réunir ces deux activités parce que on voit que les opérations sont de plus en plus hybrides, de plus en plus complexes et font appel à des opérateurs qui soient privés et publics qui travaillent ensemble. Donc ça fait sens hein, pour accompagner encore mieux le financement des territoires, en tout cas de réunir ces deux équipes.
C'est intéressant parce qu'on voit bien que l'empreinte très territoriale qu'a Arkéa dans son ADN d'aller au contact, bien évidemment. Justement, contact, il y a, puisque nous avons une grande dame de l'immobilier qui est avec nous. Bonjour Anna de Dieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de votre invitation.
Vous êtes directrice du développement et des relations institutionnelles et de la communication pour le groupe Altemed. Merci d'être avec nous et vous prêter au jeu des questions. Je vous propose, ma chère Anna, que nous commencions d'abord par le très attendu édito que nous a concocté notre ami Aurélien Deleu. C'est tout de suite après ça.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle sur Radio Immo.
De retour ici à Montpellier avec le très attendu édito de Aurélien Deleu.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en tout cas à cette émission Parlons Territoire à Montpellier. Donc, comme vous le savez, Arkéa est un adepte du Tour de France. Donc on est sur notre 5e étape après avoir fait Lyon, Rennes, Bordeaux, Toulouse. On pose nos valises ici aujourd'hui à Montpellier. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu hein, comment nous avons décidé de construire cette émission avec nos amis de Radio Immo, puisque c'est une émission qui est 100% en tout cas organisée, produite par Arkéa Banque. Nous l'avons construite autour de 3 thématiques. La première thématique, c'est la thématique du territoire. On en a parlé d'ailleurs, on l'a dans le titre, parce que le groupe Arkéa aujourd'hui fait partie du seul groupe bancaire français hein, dont le siège est implanté dans les territoires. Notre siège est au relais Kerhuon, tout près de Brest. Donc voilà, on est une banque ancrée sur les territoires. Arkéa Banque a 21 centres d'affaires sur toute la France où l'on accompagne les entreprises dans le développement et dans leurs projets. La deuxième thématique, c'est la thématique, on va dire, de la fabrique de la ville et de l'immobilier. On a un positionnement, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, sur le sujet de la fonction, qui est particulier, c'est qu'on essaie d'être le banquier des acteurs de la chaîne de l'immobilier. Et donc, on intervient en finançant des collectivités locales, on accompagne des aménageurs publics, des promoteurs immobiliers, des bailleurs, jusqu'à la sortie d'une opération et l'investisseur institutionnel. C'est extrêmement important parce qu'on intervient sur des opérations qui sont de plus en plus complexes et qui mêlent les spécificités, les expertises de ces différents acteurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Alors, on a notre rôle de banquier, hein, mais pas que, on essaie également, comme c'est le cas aujourd'hui, d'animer un petit peu cet écosystème écosystème. Chaque année, on organise un événement qui se passe à Paris, où on réunit, on va dire, l'écosystème des dirigeants, hein, de cette chaîne de l'immobilier qui s'appelle le Speed Dating de l'immobilier. Donc on en est sur notre 12e édition. Alors cette année, il n'aura pas lieu en septembre, mais on l'a décalé, il aura plutôt lieu au mois de novembre. Donc il y a toujours un événement assez attendu avec à peu près 200 dirigeants. Et on a... En tout cas, on a souhaité délocaliser ces événements en région. C'était une demande évidemment de nos clients, mais aussi des équipes, des territoires, pour essayer de faire ces petits événements où on met en avant des problématiques, on prend le pouls du territoire, on va écouter les dirigeants, on va regarder quelles sont les innovations qui se passent sur ce territoire, donc en plus petit comité, mais en tout cas de donner la parole, on va dire, aux personnes qui fabriquent la ville. Donc ça, c'est le sujet qui est important. Sur le deuxième, de l'immobilier au sens large, on sait également que ce secteur aujourd'hui est pas au meilleur de sa forme. On est dans une situation qui est compliquée.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Qu'elle soit d'ailleurs sur les collectivités locales, hein, où les finances publiques sont tendues, le secteur hospitalier également, hein, qui souffre, et puis évidemment, hein, les opérateurs de l'immobilier, avec une crise de l'immobilier, voilà, qui est quand même assez grave. Donc nous, dans ce contexte-là, on essaie de jouer notre rôle de banquier, et donc d'accompagner. On accompagne pas nos clients seulement dans les bons moments, mais également dans les moments qui sont un peu compliqués. Et donc, voilà, on a la chance d'avoir des équipes sur les territoires, hein, qui mettent en œuvre des expertises et qui utilisent les leviers de la banque pour financer les projets. On a aujourd'hui à peu près 1000 opérations de promotion de financement au niveau national. Donc on est sur un nombre d'opérations qui est important, qu'on essaie en tout cas de finaliser. Mais ce qui est surtout très important, c'est de continuer à financer de nouvelles opérations. Et c'est là où on a besoin des banquiers. On n'est pas les seuls, hein. On a la chance d'avoir un tissu de banques régionales, coopératives, qui sont également très présentes à nos côtés et qui permettent de sortir en tout cas vers le haut ces projets. Le groupe Arkéa vient de lancer au premier trimestre son plan à moyen terme, qui s'appelle FAIR 2030. Vous voyez qu'on est une banque, on va dire, de feuzeux, hein. Et donc, c'est de continuer dans le développement. C'est une particularité de notre groupe, c'est que ces dernières années, sur les 10 dernières années, notre banque continue à embaucher sur les territoires pour financer encore plus de projets. Le troisième item qui est également très, très important, c'est l'accompagnement de la transition. La transition environnementale. Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est aujourd'hui, depuis quelques années d'ailleurs, une entreprise à mission. Et donc, on a déployé toute une gamme de financements pour accompagner les projets de transition environnementale, les projets de rénovation énergétique, les projets de production d'énergie. C'est quelque chose, en tout cas, qui nous anime et qui est extrêmement important. Et on le verra lors de cette émission, qui est également très présent, en tout cas, sur le territoire ici, qui a, je le pense, hein, pour avoir fait quelques villes, un coup d'avance par rapport à d'autres métropoles. Donc, pour conclure, on pose nos valises aujourd'hui à Montpellier. Montpellier, cette cité du Sud, où l'histoire se mêle à l'innovation. C'est une ville qui a été le berceau d'une des plus anciennes universités d'Europe. Et Montpellier, aujourd'hui, attire énormément de population. C'est à peu près 8000 habitants, hein, qui rejoignent la métropole chaque année. Et on est aussi sur un territoire extrêmement jeune, puisque une personne sur cinq du territoire, un habitant sur cinq, est aujourd'hui un étudiant. Si on parle des jeunes, c'est même 25% de la population, hein, qui est considérée comme jeune. Et donc, le vrai sujet qu'on va avoir aujourd'hui, hein, c'est comment, en tout cas, avec les dirigeants, les opérateurs qui sont ancrés sur le territoire, on accompagne ce dynamisme, comment on accueille ces nouvelles populations. En tout cas, voilà, je pense qu'on a énormément de choses à se raconter aujourd'hui lors de cette émission, et je vous propose qu'on commence tout de suite.
Merci Aurélien, bravo. Vous avez raison, Aurélien, de souligner l'importance de la présence territoriale. Parce que on parle pas d'un marché de l'immobilier, mais des marchés de l'immobilier, car chaque région a ses aspérités, a ses réalités territoriales. On le voit d'ailleurs avec l'aménagement du territoire. Donc je pense que c'est une excellente introduction. Justement, on va vous écouter, vous, Anna De Dieu, tout de suite après ça.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle sur Radio Immo.
Si vous prenez l'émission en cours, vous êtes à Montpellier avec nous, avec Arkéa, dans notre numéro ici spécial Montpellier. Bonjour Anna De Dieu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice développement, relations institutionnelles et de la communication du groupe Altemed. Et nous avons une tradition, la première question vous est posée par notre expert du jour, c'est Aurélien Deleu.
Oui, j'aimerais là, tout simplement qu'on revienne un petit peu sur le groupe Altemed qui fait part d'une organisation un peu particulière, spécifique, même envie de dire innovante, sur les territoires, puisqu'elle allie une SEM qui fait de l'aménagement, un organisme HLM, une SPL. Et donc j'aurais aimé que vous nous en disiez un petit peu plus sur votre groupe, quel rôle aujourd'hui il joue sur la métropole et quels sont également ses liens avec les collectivités territoriales.
Okay, merci, bonjour. Donc Altemed, premier élément peut-être, c'est un groupe public qui est effectivement depuis 2022 le regroupement de l'aménageur public de la métropole de Montpellier, qui était la SERM SA3M, et puis du bailleur social de la métropole de Montpellier, ACM Habitat. Donc Altemed, c'est un constructeur de morceaux de ville, c'est un outil au service des politiques publiques. Donc premier élément dans les politiques de l'aménagement, de la construction, du logement et de l'énergie. On est présidé donc par Michaël Delafosse, qui est le maire président de la métropole de Montpellier, et on agit majoritairement sur le territoire de la métropole de Montpellier, y compris de la ville de Montpellier. Donc les collectivités locales, nos relations avec les collectivités locales, elles sont à la fois nos actionnaires et nos clients, puisque c'est elles du coup qui nous confient nos projets. On peut dire in fine que nos clients sont du coup les habitantes et les habitants de la métropole. Pour donner peut-être quelques grands chiffres, Altemed aujourd'hui sur le territoire, c'est 550 salariés, c'est à peu près 80 projets d'aménagement et de construction, c'est 23 000 logements sociaux en gestion via le bailleur, et c'est plus de 300 millions d'euros d'investissement sur le territoire. Sur la structuration du groupe, et vous l'avez dit, effectivement, c'est une innovation institutionnelle, y compris française, puisque c'est la seule société de coordination.
Il me semble bien, je crois que vous êtes la seule organisation à avoir cette configuration en France.
C'est ça. Oui, donc tout à fait. Donc ouais. Altemed, c'est une SAC, donc une société de coordination qui a été permise, dont la création a été permise par la loi Elan, et c'est la seule SAC en France qui vient regrouper un OPH, donc ACM Habitat, une SEM d'aménagement et une SPL, une société publique locale. Peut-être il faut revenir au fondement et se poser la question de pourquoi à un moment il a été décidé effectivement de créer Altemed, parce qu'en 2020, quand Michaël Delafosse a été élu président de la métropole, son souhait a été de regrouper ces deux acteurs qui sont des acteurs importants sur le territoire des politiques urbaines et du logement pour avoir un commandement unique, puisqu'on avait des acteurs qui s'entendaient pas forcément toujours extrêmement bien, et donc l'idée a vraiment été de dire c'est un commandement unique pour que ces deux gros acteurs sur le territoire travaillent dans le même sens. Et donc c'est aujourd'hui un COMEX unique et des fonctions support qui sont mutualisées pour la totalité du groupe. Se dire que ça a été fait donc dans cette logique de culture de projet, dans une logique aussi d'améliorer de fait la cohérence et l'efficacité dans les projets qui sont menés sur le terrain. Et clairement, 2 ans après, on peut se dire que sur le terrain, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, le projet de la Mausson, qui est le plus gros projet de renouvellement urbain de la métropole de Montpellier, et un projet financé par l'ANRU, le fonctionnement des équipes, à la fois des énergéticiens, puisqu'on fait le réseau de chaleur, du bailleur social qui loge une grosse partie du quartier, enfin des habitants de la Mausson, et de l'aménageur qui mène le projet de renouvellement urbain. Il y a des vrais liens, des arbitrages beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles qui sont pris au jour le jour, et c'est une vraie capacité d'amélioration, en tout cas, et de mise en cohérence et de coordination sur le terrain.
Quand on parlait de mutualisation des fonctions support, c'est-à-dire qu'ils sont dans un véhicule, une sorte de holding un peu,
c'est
territorial.
C'est ça, une forme de holding de gouvernance.
Et sur
dans
quel
la
type de fonction
de coordination, dans les fonctions support, on va aller retrouver le juridique, le financier, le développement, l'informatique, voilà toutes les fonctions.
C'est intéressant parce que c'est très innovant en fait, et c'est une innovation publique, et donc c'est assez important et rare pour le souligner. Je vois bien l'ADN du maire de La Fosse qui est très volontaire, puisqu'il fait partie, Michaël de La Fosse, de ces maires qu'on appelle les maires bâtisseurs au sens noble du terme, je précise, parce que souvent on fait une analogie entre le bâtisseur et le bétonneur. C'est deux choses très différentes, parce que quand on construit pour des gens, des vrais gens qui viennent, puisque l'habitat sans les personnes, ce n'est rien, bien évidemment. On est d'accord là-dessus. Alors justement,
j'ai une petite question, je complète juste parce que par rapport là, on a posé un peu le cadre là du groupe. Vous venez également de valider votre nouveau plan stratégique.
Oui.
Quelles sont les grandes orientations justement de ce plan stratégique là pour les années ? Et d'ailleurs, quel est le planning
extrêmement ambitieux.
Qui est aussi ambitieux. Oui, tout à fait. Peut-être, alors, avant de donner directement les grandes lignes du plan stratégique. Moi, j'avais à cœur aussi de dire un peu dans quel contexte est intervenu le travail sur ce plan stratégique. On a commencé à y travailler en janvier 2024. Donc, ça faisait 2 ans qu'Altemed a été créé, dans un moment où on était très fortement challengé. Alors, à la fois l'âme de fond, hein, vous en avez parlé un petit peu, le ZAN, la réfaction du foncier, etc., notamment dans notre métier d'aménageur. Challengé, évidemment, par la crise, une crise grave. Et puis, challengé aussi, nous, par des exigences nouvelles de nos clients, les collectivités locales. Mais donc on était quand même dans un contexte aussi où Altemed existait depuis 2 ans et où on avait commencé à travailler quand même sous la présidence de Michaël Delafosse dans des directions quand même assez fortes. Une première direction, et je pense qu'elle est importante puisque vous avez parlé du dynamisme du territoire en introduction, ça a été une direction très forte sur le sujet de la production de logements. Et donc un territoire qui s'est mis en marche en 2022 en lançant un choc de l'offre, et donc la production de 8000 logements sur le territoire en 2 ans, donc 2022-2023. 7700 ont effectivement été lancés. Alors ensuite, impactés par la crise, il y a des projets qui se sont grippés, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est 7700 logements lancés en 2 ans et un effort qui s'est poursuivi dans les années qui ont suivi. Se dire aussi que dans cette crise, il y a un positionnement fort de l'acteur public qui a été pris sur le territoire, qui est celui d'être un acteur contracyclique. C'est-à-dire que quand les projets ont commencé à se gripper, augmentation des coûts de construction, etc., le parti pris a été de dire « Ok, on prend les projets un par un ». Avec les promoteurs, on travaille et on essaye de sortir ces projets.
Je ne sais pas si le mot est approprié, mais quand même, contracyclique, c'est-à-dire que malgré la conjoncture, vous êtes resté offensif.
Tout à fait.
À l'aide aussi d'un secteur privé qui a considérablement souffert.
C'est ça. On s'est mis dans une logique de partenariat, se disant Absolument. Que de toute façon, sortir de la crise, c'était sortir ensemble de la crise. Que c'est si comme on n'en sortirait pas.
C'est comme le banquier Arkéa qui a prêté un parapluie à ses clients quand il pleuvait et pas quand il faisait beau. Non, mais voilà, je simplifie un peu, mais quelque part, ça a beaucoup de sens ce que vous dites.
On s'est mis en tout cas vraiment dans cette logique et contracyclique aussi. Altemed a continué d'augmenter son investissement sur le territoire entre 2021 et 2024, malgré la crise et peut-être même à cause de la crise, c'est plus 30% d'investissement sur le territoire pour atteindre 314 millions d'euros en 2024. Et donc c'est vraiment un positionnement assez fort et peut-être troisième axe qui était à ce moment-là fort pour nous, c'était remettre les habitants au cœur de la réflexion. Vous avez parlé des usages, vous avez parlé de pour qui on fait la ville.
Bien sûr.
Et donc que ce soit le bailleur social en travaillant sur la satisfaction locataire, en venant la mesurer et l'accroître pour atteindre 80% en 2024, ou l'aménageur en allant intégrer des nouvelles fonctions, des nouveaux métiers, il y a vraiment eu ce souhait de dire on remet les habitants au cœur de la réflexion. Et puis, je vous disais, il y a des exigences nouvelles des collectivités locales. Exigences nouvelles qui vont dans ce sens-là, qui sont de dire à un moment, vous pouvez, enfin, un aménageur, c'est pas seulement des plans, vendre des lots aux promoteurs, etc. Et puis, un bailleur social, c'est pas seulement gérer du logement. À un moment, c'est effectivement prendre en compte les usages, c'est parler sécurité, c'est parler commerce et quotidienneté, c'est parler de comment un quartier se construit, certes, mais comment il s'habite. Et c'est deuxième chose, et ça pour le coup qui a vraiment été catalysé par la crise, dans les nouvelles exigences de nos clients et qui ont aussi justifié la façon dont on a travaillé sur notre stratégie de développement, c'est la nécessité de faire la ville moins chère. Faire la ville moins chère pour ses habitants, puisque avant la crise, on avait parfois atteint des niveaux sur les prix de sortie trop élevés. Et vous dites Montpellier, effectivement, ville très dynamique, c'est aussi une ville assez pauvre. Et donc, c'est faire la ville pour ses habitants et pour qu'elle soit soutenable pour ses habitants. Et c'est aussi faire la ville moins chère pour les collectivités, puisque on parle de crise immobilière, mais qui est aussi une crise financière forte pour l'État, les collectivités locales. Et donc, elles n'ont plus la capacité de payer ce qu'elles pouvaient. Voilà. Donc nous, en tant qu'aménageurs publics, cette vraie nécessité, à un moment, dans la stratégie de développement, de travailler aussi sur la ville moins chère.
Alors, on va avancer, justement. C'est un vrai sujet. Alors, je suis très heureux que vous soyez sur le plateau, parce qu'effectivement, d'abord, c'est innovant, et c'est offensif dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est une vraie réponse, parfois aussi, à des messages qui sont pas toujours très clairs, d'un État qui se jacobinise, qui a vu fondre aussi également les dotations qui sont faites aux collectivités locales. On a un vrai sujet de fond qui est un sujet structurel, et on l'a vu dans le projet de loi de finances pour 2025. La métropole de Montpellier, c'est paradoxalement un territoire très attractif. Donc vous faites partie des villes un peu gagnantes en démographie, avec les bons et les mauvais côtés. C'est-à-dire que Gagner en démographie est une très bonne chose, puisqu'effectivement, c'est un peu le curseur de l'attractivité des villes. Mais encore faut-il y construire les aménités qui vont bien, pouvoir loger décemment ses habitants, bien évidemment. Vous êtes devenu également un des pôles les plus attractifs en matière d'emploi également. Alors, la question de la sobriété foncière, vu la configuration de l'urbanisme sur votre territoire, c'est vraiment au cœur de la problématique. Le zéro artificialisation nette a durablement pesé sur l'ensemble des décisions, même si, vous savez, il y a l'examen de la loi Trace qui vise à assouplir la loi ZAN, mais on a aussi le projet de loi Uvart qui est aussi bien engagé. On a la livraison d'un rapport par le sénateur Daubresse et le député Cosson sur le statut du bailleur privé pour relancer l'investissement. On voit bien que l'État, finalement, est arrivé à un moment donné où toute cette contrainte normative, on peut même parler d'inflation normative, est en train d'être revue pour assouplir et essayer de trouver comment vous définissez-vous avec ces contraintes, ces injonctions, parfois contraires, vous définissez un peu votre politique stratégique, comment vous arrivez finalement à joindre, et c'est pas facile pour un élu, entre cette croissance démographique qu'il doit absorber, parfois, et dans certaines villes, à son corps défendant, puisque c'est pas toujours évident en termes de ressources, et d'essayer en même temps d'avoir cette équation, de laisser la renaturation, d'avoir un espace urbain vivable, inclusif, harmonieux, ce qui est vraiment pas simple pour une métropole qui croît de façon assez importante, à l'instar de la ville de Toulouse ou d'autres villes aujourd'hui qui ont le vent en poupe.
Bah, du coup. La sobriété foncière, enfin nous, on la décline alors sur nos opérations par des choses, enfin le respect de toute façon du PLUI, hein, puisque pour le coup, on a une métropole. Oui, puis on a une métropole qui est plutôt ambitieuse, hein, là
oui,
aussi,
oui,
dans ce sens-là.
Donc, mais sans perdre de vue le fait que vous voulez loger.
Bien
sûr. Ce qui est intéressant dans la façon dont vous travaillez, et vraiment, j'insiste pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez gardé cette idée, et le maire de La Fosse le sait, et il le fait, il veut loger les habitants. Il souhaite les loger dignement, décemment, avec toutes ces contraintes. Pas simple du tout, mais ça, c'est important de le rappeler. Vous voulez, vous souhaitez intégrer toutes ces personnes.
Et augmenter, en tout cas, effectivement, la production de logements. Il y a une spécificité du territoire qui est peut-être, enfin, qui pour nous, en tout cas, est un axe assez fort de travail. À Montpellier, il y a très peu de friches. C'est pas un territoire de friches. J'ai parlé de renouvellement urbain comme étant, pour le coup, pour nous, hein, un des axes très forts, justement, de notre plan stratégique sur les cinq années à venir. On a un vrai travail sur Montpellier, la métropole de Montpellier, sur le sujet de la reconquête des zones commerciales. Donc peu dense, non mixte, etc. Et donc réussir à faire muter ces fonciers et mettre de la mixité, à remettre du logement dans ces zones qui représentent des centaines d'hectares, hein, sur le territoire de la métropole. Donc on a un vrai enjeu là-dessus. Donc deux très grosses opérations d'aménagement sur lesquelles on est opérateur et qui vont, je pense, parler à tout le monde. Donc qui sont Aude à la mer, hein, qui est sur le chemin entre Montpellier et la mer, et Montpellier Sud, qui là pour le coup est c'est plus de 100 hectares en cœur de ville, hein, vraiment à proximité du centre-ville, à trois arrêts de tramway du centre-ville, donc dans un quartier qu'on appelle Montpellier Sud, et qui sont des quartiers de reconquête de zones commerciales ou de concessions automobiles, etc., peu denses, non mixtes, et tout le travail, donc qui est un travail de longue haleine, hein, mais qui est d'aller remettre du logement. Montpellier Sud, c'est 7000 logements de prévus, donc d'aller remettre du logement dans ces zones qui sont aujourd'hui urbanisées uniquement via le commerce. C'est aussi aller chercher, évidemment, mais ça pour le coup, je pense que c'est des initiatives sur lesquelles on va rejoindre pas mal d'autres territoires, hein, qui sont les sujets de densification, notamment autour des zones de transport, des arrêts de transport en commun, etc. Et puis la verticalisation, qui est un sujet dont on parle aussi quand même de plus en plus. Et nous, on a lancé travail.
On va construire plus haut.
Bah, là où c'est possible et là où le PLUI okay. le permet, construire okay. plus haut, parfois sur du patrimoine déjà existant. Donc
oui,
venir construire en hauteur, effectivement,
de surélévation,
verticalisation, c'est ça. Oui, vous avez raison, tout à fait, je dis verticalisation, surélévation. On a travaillé là-dessus, par exemple, enfin le travail n'est pas terminé, mais avec une start-up qui s'appelle Upfactor, sur le patrimoine d'ACM Habitat, puisque nous on est aussi bailleurs, et donc repérer tous les endroits où il est possible aujourd'hui de venir densifier ou surélever du patrimoine déjà existant. Et on a travaillé aussi en lien avec la métropole sur une partie de la ville de Montpellier pour voir ce qu'il était possible d'imaginer en termes de densification et surélévation.
Alors les enjeux sont majeurs et avec Aurélien, on axe de plus en plus dans nos interviews, on cherche à comprendre les mécanismes qui sont liés justement à la transition écologique et environnementale, aux efforts qui sont faits sur la rénovation énergétique, qui est un peu le chantier. Alors d'abord, c'est le chantier du siècle, hein, vous le savez, c'est un marché global qui est évalué entre le bâti et l'ancien environ à 240 milliards d'euros de financement. On sait que on vise une neutralité carbone en 2050. Déjà, on savait que les promoteurs étaient plutôt vertueux dans la livraison de l'immobilier neuf en termes de rénovation énergétique. Vous y engagez pleinement. C'est aussi un axe important et on le voit d'ailleurs à l'instar du climat qui règne entre le confort, les problématiques liées au confort d'été comme au confort d'hiver, sur lequel on a une vraie lutte à la fois contre, j'allais dire, l'inflation des coûts de l'énergie, qui est un vrai sujet pour les Français. Vous savez que c'est un des postes et des plans les plus contraints, même si le logement est passé devant la nourriture, vous savez, dans les dépenses contraintes sur les sources INSEE. Comment vous définissez votre engagement à la fois écologique, environnemental et cette nécessaire équilibre entre les coûts de l'énergie et la maîtrise de l'énergie en elle-même quand elle est vécue par les habitants, les occupants?
Tout à fait, l'engagement en faveur de la transition énergétique, écologique au sein d'Altemen, donc elle se fait effectivement majoritairement au sein de notre... avec notre casquette énergéticien, alors pas seulement, hein, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur le patrimoine avec le bailleur social.
Alors vous êtes aussi, vous êtes énergéticien, c'est-à-dire, ouais. c'est quoi le...
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on a une filiale de la CERM, donc de la Société d'économie mixte, qui s'appelle Énergie du Sud, qui est une filiale qui est consacrée entièrement à la production d'énergie, donc pour le coup plutôt photovoltaïque, et puis on a la SPL, excusez-moi, dont le capital a également été ouvert à l'énergie et qui intervient aussi aujourd'hui sur l'énergie. Mais Altemed, aujourd'hui, historiquement, hein, c'est l'opérateur du réseau de chaleur et de froid de Montpellier, donc l'opérateur historique, avec un objectif extrêmement ambitieux sur les années qui arrivent, puisque un objectif de multiplication par 3 du réseau de chaleur d'ici 2030 à partir de 2020. Donc c'est là notamment le projet de chaleur du réseau Nord qui va relier en équivalent logement 19 000 logements à ce nouveau réseau de chaleur qui est en cours de construction. Et ce réseau de chaleur, c'est une souveraineté énergétique, enfin de l'indépendance énergétique, circuit court, en tout cas production locale, hein, puisque les bois qui sont utilisés dans les chaufferies sont locaux. C'est une chaleur à 70% renouvelable et c'est pour effectivement les habitants, d'abord une stabilité des prix de l'énergie et environ 10% d'économie sur la facture énergétique.
C'est une source géothermique.
On a
oui l'énergie que vous utilisez.
Plus, c'est on a fait de la chaufferie bois.
La chaufferie
on
bois.
Fait du géothermique sur en tout cas le réseau de chaleur. Et puis ensuite on fait également des projets en photovoltaïque. Et là aussi on a un objectif de développement très important des projets photovoltaïques.
Est-ce que vous utilisez le coup de pouce du gouvernement justement qui est prévu jusqu'à pour le raccordement des réseaux de chaleur qui permet de doper, de financer vos opérations
dans le montage financier.
Bien sûr.
Et on fait également alors qu'elle dit en termes d'innovation, on a par exemple monté un projet sur Eureka, donc Castelnau, qui est une ville juste à côté de Montpellier, où on vient utiliser la chaleur fatale des serveurs de Dell pour produire de la chaleur. Donc ça fait partie du type d'innovation sur lesquels on travaille.
Merci beaucoup Anna de Dieu. Applaudissements pour Anna de Dieu. Extrêmement intéressant. Vous êtes, j'allais dire, la cliente typique pour la radio, puisque cette innovation que l'on voit, vous, côté public, elle est non seulement intéressante, mais elle irrigue également. Et je sais que l'organisation d'Altemed inspire d'autres collectivités locales qui vous observent. Et je trouve que c'est extrêmement salutaire ce type d'action. Je rappelle que vous êtes directrice du développement des relations institutionnelles et de la communication du groupe Altemed. Je vous encourage d'ailleurs à aller sur les sites internet. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. À suivre, nous allons rencontrer un grand monsieur de l'immobilier qui est avec nous. Restez encore avec nous sur le plateau. Nous allons recevoir quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, que je connais depuis quelques temps, avec qui j'ai toujours plaisir à discuter. C'est Mathieu Massou qui va nous rejoindre dans quelques instants, tout de suite après ça.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.
Bienvenue dans Parlons territoire. Nous sommes à Montpellier dans notre Tour de France avec mon ami Aurélien Deleu. Ça va toujours, Aurélien ?
Toujours.
Merci d'être avec nous dans un environnement magnifique. Il fait très beau à Montpellier. On a tous envie d'aller vivre à Montpellier. On va aller voir Anna de Dieu. On va lui dire, voilà, on s'installe. On est 10 000 à arriver. Ça va être plutôt sympa à loger. En tout cas, un territoire vraiment particulier, singulier. Et justement, un acteur engagé sur ce territoire que j'ai le plaisir de rencontrer très souvent, c'est Mathieu Massot. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors Mathieu, vous êtes le directeur général du groupe FDI, vous êtes un acteur engagé, très ancré dans le tissu local. En fait, le territoire n'a plus aucun secret pour vous. Le groupe FDI se distingue à la fois par la diversité de ses activités dans le secteur de l'habitat et de l'immobilier. Ce que je voudrais, c'est que peut-être vous nous représentiez les activités du groupe FDI et également pourquoi et comment finalement vous arrivez à être présent partout. Moi, je suis souvent venu vous voir ici à Montpellier. Vous êtes partout, ça, c'est, il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous arrivez à cultiver également cette relation très proche avec les élus locaux.
D'abord, c'est un groupe historique, 110 ans d'existence. C'est un groupe régional, siège social ici à Montpellier. Et c'est un groupe coopératif. C'est la singularité de son mode de gouvernance. On dispose de la complétude des métiers de l'actif immobilier. On est capable de tout produire et de tout gérer. On peut être lotisseur, on peut être aménageur, on peut être promoteur immobilier, de logements principalement, mais également d'activités, de bureaux, de commerces, de locaux d'activité. Et surtout, nous ne sommes pas de simples dépositaires d'actifs. On est en capacité demain de les gérer. On intervient également sur les métiers de l'administration de biens. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure de manière un peu, là aussi, singulière sur l'administration provisoire. Donc on a aussi bien sur le volet de l'habitat, mais également sur le volet de l'immobilier tertiaire, là aussi. Donc ce sont 9 sociétés aujourd'hui qui interviennent dans le périmètre du groupe FDI. J'ai le plaisir de diriger depuis 4 ans. C'est 250 salariés, c'est 160 millions de chiffre d'affaires, 135 millions de fonds propres. Ça donne voilà, une composante et une assise ici assez historique. Et notamment à travers le métier du bailleur social, on nous voit et on nous connaît à travers l'ESH qui dispose d'environ 8400 logements aujourd'hui sur 133 communes et principalement sur les départements de l'Hérault. Mais on oublie parfois aussi une partie de ces activités et j'espère qu'on pourra les mettre en lumière.
Mathieu, oui, le groupe, vous l'avez dit, gère et construit des logements. Alors la particularité, c'est que vous intervenez sur toute la gamme hein, de logements, du logement, on va dire, social, au logement abordable, jusqu'au logement intermédiaire, jusqu'au logement privé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la capacité de production du groupe en termes de logements et ensuite sur le positionnement des produits en fonction des différents territoires? Et quels sont justement les produits qui marchent aujourd'hui hein, parce qu'on sait qu'on est dans une période qui est compliquée où on a un écoulement hein, notamment sur la promotion qui peut être un peu long avec un vrai sujet sur le prix hein, et la capacité je pense aux accédants hein, de pouvoir acquérir un logement. Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de cette activité au niveau du groupe?
Alors avec beaucoup d'humilité, lorsqu'on évoque la partie de la promotion immobilière et de l'aménagement reste épisodique. Dans la salle, certains sont de très beaux aménageurs. Le reste, d'ailleurs, pour nous, depuis 2 ans, on a pris le parti d'être prudent sur la partie lotissement. Donc, c'est une part qui aujourd'hui est minoritaire dans le volume de production. La promotion immobilière sur ces 5 dernières années, nous l'avons diversifiée autour de l'immobilier d'entreprise, donc la construction et réalisation de bureaux, de locaux de commerce, de locaux d'activité aussi. Ça, c'est un positionnement plutôt récent. On a un volume de production qui oscille entre 300 et 350 unités sur la partie de promotion immobilière. Ça, c'est le trend que l'on s'est fixé, que l'on continue de se fixer, que l'on a atteint sur 2024 et que l'on devrait atteindre sur 2025. La particularité de notre ESH, c'est sa diversification, principalement autour du logement abordable. On a été pionnier et avec là aussi beaucoup d'humilité. Anna le sait, on a participé. Nous sommes membres fondateurs de l'organisme de foncier solidaire de la métropole de Montpellier. On a constitué notre propre OFS qui intervient sur les territoires autres que la métropole de Montpellier. Donc on a été d'ailleurs dès 2008 le premier opérateur à proposer du PSLA sur le territoire. On a été le premier opérateur aussi à proposer du bail réel solidaire ici sur des territoires, je dirais, connexes à la ville centre de Montpellier. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de diversification de notre SH. Et puis, ce qu'on qualifie d'hébergement spécifique. Hier, le ministre Buffet était à Pignan. On a le plaisir demain de réaliser la future gendarmerie de Pignan. On va démarrer les travaux d'ici la fin de l'année de la belle gendarmerie de Lunel. C'est 110 logements pour de futurs gendarmes sur ce territoire du Lunellois. Donc la diversification d'activités autour de résidences gérées, résidences étudiantes, seniors, résidences autonomie, foyers pour jeunes travailleurs, foyers pour jeunes autistes. Voilà, c'est une vraie diversification qui répond au sens attendu de nos territoires. Et là aussi, on a un volume qui continue de s'intensifier sur cette partie-là. Malheureusement, je dirais, la production de logements locatifs sociaux qui est attendue aussi sur nos territoires, eh bien, elle représente une part, pour la première fois en 2025, elle va représenter une part inférieure à la partie hébergement spécifique et logement abordable. Voilà. Donc après, pour votre question, Aurélien, sur la réponse...
Je reviens quand même sur l'OFS. Oui. Quand on est en OFS en zone plus rurale, puisque vous avez développé un outil spécifique, ça fonctionne aussi en zone détendue. On arrive à aller chercher quoi ? Une décote qui est de l'ordre de combien par rapport au...
Alors, attention effectivement au positionnement du bail réel solidaire en zone dite détendue. Parce que alors j'ai malheureusement... l'humilité de penser que les territoires sur lesquels nous sommes...
va expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'une zone détendue. C'est une zone dans laquelle il y a moins de pression sur la demande de logement, sur le marché locatif, comme sur le marché de l'accession à la propriété. Mais ça ne veut pas dire que l'OFS n'est pas opérant sur ce type d'action. Faut quand même le rappeler.
Clairement. Et notre OFS se positionne aujourd'hui sur des territoires en limite de métropole de Montpellier. Je pense au Pays de l'Or, à Moggio, à la Grande Motte, qui restent des territoires dits tendus. Sur Saint-Clément-de-Rivière, sur Saint-Gély, qui sont des territoires, je dirais, phares au-delà de la métropole de Montpellier, sur Sète également. En revanche, on a essuyé quelques difficultés. Je parle pas encore d'échecs, mais sur certains territoires, on a voulu proposer du bail réel solidaire. Je fais pas offense à mes amis, ni moi, et Gardois, mais quand on a essayé de proposer du bail réel solidaire, mais ça, c'est notre responsabilité, on l'a mal positionné. Et donc, pour répondre à votre question, sur des territoires type ville-centre de Nîmes, si nous n'avons pas été capables d'atteindre une véritable appétence commerciale, c'est notre responsabilité parce qu'on a mal positionné le produit. Si vous n'êtes pas aujourd'hui sur un décrochage prix, qui peut varier entre moins 30 et moins 40% du prix du marché, vous ne trouvez pas évidemment preneur sur le bail réel solidaire. Attention au bail réel solidaire aujourd'hui parce qu'il se multiplie à l'échelle du territoire et notamment sur la métropole de Montpellier. On a mis en commercialisation, tout OFS confondu, entre 600 et 700 unités sur les 18 derniers mois. Il y a 300 à 400 logements en bail réel solidaire qui sont en programmation sur 2025 sur la seule métropole de Montpellier. Vous avez des quartiers où vous avez plusieurs opérations qui sont en simultané en commercialisation. Et aujourd'hui, attention au risque de cannibalisation de ce produit-là. Et qui plus est sur la métropole de Montpellier, puisque vous avez un encadrement de prix. Vous allez proposer, notamment puisque ce sont des fourchettes de prix par typologie, tout opérateur que nous sommes, malheureusement, se positionne sur la partie haute de la fourchette pour essayer d'améliorer le bilan des opérateurs que nous sommes. Et là, finalement, on se retrouve avec un territoire, plusieurs opérations simultanées qui sont pas forcément dans les mêmes quartiers, mais avec un positionnement prix identique. Donc moi, je dis attention à son positionnement. Il donne beaucoup de sens aux politiques publiques. Il donne du sens parce que c'est de l'accession à la propriété. Ça permet à certains de sortir du parc social, à certains de sortir du parc privé. Mais ce produit trouve son sens. D'ailleurs, en 2024, c'est un point de résistance pour le groupe que j'ai le plaisir de diriger. Et pour un certain nombre d'opérateurs, s'il n'y avait pas eu du bail réel solidaire en quote-part dans la production, des opérations ne se seraient pas commercialisées. C'est la même chose sur les LLI. En tout cas, aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, sur la commercialisation 2024, c'est à peu près 25% d'unités qui sont commercialisées en bail réel solidaire, y compris en PSLA, mais majorité de BRS, et y compris en TVA réduite. Donc l'accession abordable au sens large, elle donne du sens, attention à son positionnement, et attention au risque de cannibalisation sur la ville de Montpellier autour du bail réel solidaire.
Alors, ce que vous dites est central, et même est l'une des préoccupations majeures des opérateurs à la fois publics, parapublics et des opérateurs privés. C'est vrai que le BRS... Il y a un esprit dans le bail réel solidaire, qui est la dissociation entre le foncier et le bâti, et l'état d'esprit du législateur, c'était permettre l'accès, dans une certaine mesure, à prix maîtrisé, aux Français, dans l'accession à une forme de propriété. Même si on peut parler d'une forme d'emphytéose ou de démembrement. D'ailleurs, quand le BRS a été lancé, on l'a souvent très comparé au système de l'emphytéose britannique, par exemple.
Bon. C'est exactement ça.
Donc, c'est pas une rupture du droit de propriété. Ça, non, c'est important ce que vous dites, parce que quand vous dites, et je le vois tout le temps, c'est-à-dire que vous avez dit, simultanément, on a plusieurs opérations en BRS. Et oui, c'est logique. Parce que le BRS permet effectivement d'avoir des prix de sortie, entre guillemets, relativement bien maîtrisés, et on veut des clients. Donc, forcément, à un moment donné, peut-être que le BRS pourrait être victime de son succès dans une certaine mesure. Vous avez parlé du PSLA, prêt social location accession, qui est un outil formidable. Il faut juste que vous rappeliez, si vous voulez bien, le fondement du BRS et le fondement du PSLA. C'est sortir du logement social, c'est aller ce qu'on appelle sur le parcours résidentiel et accéder à la propriété. Est-ce que le compte y est aujourd'hui par rapport à ces méthodes, même si on sait que le BRS a beaucoup aidé les promoteurs privés, à travers le logement intermédiaire notamment, et les mécanismes qui ont été mis en place. Parce que, faut être très clair, Mathieu, votre marché locatif s'est réduit de moitié. Aujourd'hui, c'est une galère pour se loger à Paris, c'est une galère pour se loger à Nantes, et encore pire à Montpellier. On le voit de plus en plus. Quand on voit le nombre d'annonces sur le marché locatif, c'est vraiment à pleurer. Et on a 7000 habitants supplémentaires qui viennent travailler, on a des étudiants qui ont besoin de se loger. Les autorisations d'urbanisme globalement en France sont les mêmes qu'il y a un peu plus de 40 ans. Vous savez la différence entre il y a 40 ans et aujourd'hui ? Bah, c'est qu'il y a 17 millions d'habitants supplémentaires. Donc à un moment donné, on est coincé finalement entre ces antagonismes. Quel constat vous faites très objectivement par rapport à la vision que vous avez de votre territoire ?
Il y a beaucoup de questions. On va
être plutôt dans l'échange là, vous voyez, par exemple, parce que s'il faut un peu faire un constat amer, on peut aussi le faire pour ne pas dénier la réalité.
D'abord, j'insiste sur le positionnement initial qui me paraît être fondamental, ce décrochage pris par rapport à un environnement libre que l'on connaît, qu'on arrive à qualifier, qui doit être évidemment inférieur de 30 à 40% là-dessus. Pourquoi ? Parce que dans le bail réel solidaire, vous allez amortir vos droits réels, vous allez donc emprunter et donc amortir ces droits réels, et vous allez payer une redevance à l'organisme de foncier solidaire, que je peux représenter à travers FDI Foncier Solidaire. Et donc le cumul entre le paiement de votre redevance et l'amortissement de vos droits réels doit être inférieur à finalement un loyer classique que vous pourriez payer sur le marché. Et c'est le cas aujourd'hui.
Ça n'aurait pas d'intérêt aussi.
Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Oui, bah... Donc si vous avez un système de redevance parfois élevé, ou si vous avez justement un positionnement de prix qui n'est pas suffisamment décroché, vous n'avez pas cet écart avec un loyer libre. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire sortir du parc social, du parc privé, pardonnez-moi, locatif, une partie des gens qui, au lieu de payer 900 euros de loyer pour un petit étroit à Montpellier, pourront emprunter, payer leur redevance pour 750 ou 800 euros. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça fonctionnera.
Absolument. C'est formidable. Moi, je trouve ça extrêmement pertinent. Et c'est ce que vous dites là est d'or. C'est le fondement même de l'action du BRS.
Alors pour revenir peut-être sur le PSLA, parce qu'il y a eu beaucoup de questions tout à l'heure.
Alors le problème du PSLA, c'est que souvent on a confondu, on dit le PSLA, c'est la mort du PSLA, le BRS.
Non, parce que clairement aujourd'hui, il faut avoir une vraie complémentarité territoriale, et la complémentarité produit permet d'y répondre. Aujourd'hui, du PSLA, par exemple, nous on en produit sur une commune qui s'appelle Gignac, qui est dans la vallée de l'Hérault. Personne ne voulait aller à Gignac il y a quelques années. Tout le monde s'est foutu de ma gueule quand moi j'ai proposé, pardonnez-moi l'expression en direct à la radio, d'aller faire 73 logements en PSLA.
Fortement.
Pour faire du locatif à accession sur cette commune de la Vallée de l'Hérault. Merveilleuse commune, hein. Vous avez d'ailleurs une interaction forte avec les collectivités. Aujourd'hui, on a un taux de pré-commercialisation qui dépassait 60%. Les travaux ont démarré. Ça fonctionne bien. Alors, c'est pour ça que j'insiste sur le positionnement complémentaire du PSLA sur certains territoires. Et parfois, en zone moins tendue, il continue de fonctionner. Voilà. On en fait Noaigues Mortes, on en fait à Gignac. On continue à en faire sur certains territoires et ça fonctionne. Voilà.
J'aimerais aussi qu'on parle un peu de la particularité du groupe FDI, puisque vous faites aussi partie du réseau Procivis. Réseau Procivis, hein, qui signe une convention stratégique avec l'État, qui a des activités au final qui sont assez méconnues, je pense notamment aux activités de mission sociale. Et je sais que vous êtes aussi un peu innovant avec un dispositif que vous expérimentez, surtout ce qui est rénovation. J'aurais aimé que vous un petit focus de cette activité du groupe et du rôle du réseau Procivis sur les territoires.
Alors je suis aujourd'hui le dépositaire local du réseau Procivis. Nous sommes 45 sociétés coopératives à l'échelle du réseau. En consolidé, c'est le 7e acteur en chiffre d'affaires dans le monde de l'immobilier en France, tous segments d'activité confondus en production et en gestion. Donc je le disais, modèle coopératif, toutes les sociétés que j'évoquais, les 9 sociétés du groupe FDI, doivent être économiquement rentables, profitables. Et c'est parce qu'on dégage des résultats que nous avons cet engagement avec l'État, signé en mission, en convention stratégique avec le ministre Olivier Klein en 2023, qui nous engage à réinvestir une partie de nos bénéfices, un tiers de nos bénéfices, à travers ce qu'on appelle des missions sociales. Alors qu'est-ce qui se trame derrière les missions sociales ? Ce sont des avances de subventions publiques, je dis bien des avances de subventions publiques, c'est donc la trésorerie du groupe qui est générée par ses activités opérationnelles, qui est mis à disposition des politiques publiques, donc c'est finalement une forme d'accompagnement des politiques publiques, pour aider la rénovation énergétique des copropriétés privées et pour aider le préfinancement de foyers dits modestes qui ne peuvent pas, dans le circuit bancaire classique, permettre d'obtenir des prêts immobiliers pour la rénovation, l'adaptation de leur logement. Donc ça, c'est nous sommes l'acteur de l'économie sociale et solidaire. J'ai tendance à le penser, ici à Montpellier avec le groupe FDI et le réseau Procivis. Et donc c'est un peu notre particularité, c'est notre force et ça doit évidemment continuer de le rester.
C'est vrai que la singularité du réseau Procivis, souvent d'ailleurs dans l'esprit des Français, quand on dit qu'un promoteur privé est coopératif et dans l'économie sociale et solidaire, je dis, il y a presque une contradiction dans la définition. Oui, ça existe puisque effectivement vous êtes un acteur important. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans un réseau coopératif, un peu comme dans une banque, on est inopéable. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un fonds d'investissement qui va servir l'intérêt de vos actionnaires parce que vous ne rémunérez pas les actionnaires. Tout est réinvesti dans l'outil avec la force et la puissance du groupe. Ce qui est intéressant, c'est le fait que vous avez dit il faut que les entreprises soient profitables. Mmh. Mais heureusement. Ou sinon, ça serait quand même un peu suspect de dire j'aide et en même temps je perds de l'argent.
Et je peux vous dire que qui va vous contredire,
voilà. Et je peux vous dire que quand on voit que juste dans l'année 2024, on a 123 promoteurs qui ont mis le genou à terre. Dont certains ont disparu. Et que c'est la troisième cause de mortalité. Les promoteurs, dans les statistiques de novembre 2024, 60 000 dépôts de bilan, premier la construction, deuxième l'hôtellerie, troisième l'immobilier. Donc on voit bien que ce secteur a été durablement mis à l'épreuve à cause des politiques publiques, bien évidemment. Et pour réparer cette crise, il faudra un lien. Et c'est vrai que quand on voit comment vous êtes configuré, on voit bien l'intérêt, effectivement. Vous avez développé pas mal d'activités. Est-ce que, moi j'ai envie de vous poser cette question, parce que je trouve ça hyper ingénieux, j'en parlais tout à l'heure avec notre prochain invité, le fait de diversifier ses activités, d'avoir plusieurs trajectoires de revenus, de déciloter l'activité du groupe immobilier avec de la gestion de l'immobilier opéré, est-ce que cette garantie-là vous a permis, par exemple, lorsque vous faites le constat, avec cette crise multifactorielle qui nous est tombée dessus depuis plus de 2 ans maintenant, qui vous dit, finalement, les choix de diversification étaient judicieux à cette époque. À l'époque où on aurait pu être anesthésié par trop de succès.
Les résultats 2024 consolidés du groupe me permettent de pouvoir le penser. Depuis désormais un petit peu plus de 5 ans, on a accéléré cette diversification d'activités, alors principalement à travers la reprise d'une coopérative HLM dans les Pyrénées-Orientales, la création de notre organisme de foncier solidaire, la participation du groupe dans l'OFS de la métropole de Montpellier, la fusion de nos activités de services immobiliers. Donc là, on intervient sur le volet de la transaction, métier qui a évidemment souffert, qu'on a réorganisé, on a fermé une de nos 6 agences immobilières. Achat-vente, et ensuite on intervient sur la gestion locative, on gère un petit peu plus de 4000 lots aujourd'hui.
Administrateur de biens.
Et ensuite, la partie forte, c'est la partie syndic de copropriété. On gère 274 ensembles résidentiels sur le département de l'Hérault.
20 000 lots syndic.
Et puis on gère 52 ensembles d'immobilier tertiaire, des bureaux, des centres commerciaux, des supermarchés.
Plus les activités de promotion, les activités de property, si on peut dire les choses comme ça, direct.
Et on a mis en place, pardonnez-moi mon cher Sylvain, parce que c'est important aussi, dès 2015, une foncière qui nous a permis de porter un peu plus de 55 millions d'investissements sur le territoire et qui est venue, je parlais tout à l'heure de Gignac, porter un certain nombre de... C'est souvent la virtuosité du modèle à Gignac. C'est la foncière du groupe qui est venue acheté ce terrain communal, qui a donné une délégation à l'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société de promotion immobilière, qui ensuite a donné mandat à la société de gestion pour à la fois commercialiser et gérer ce pôle de santé de Gignac, qui est venu accueillir à peu près une vingtaine de médecins et de spécialistes, et l'arrivée du scanner.
Votre analyse, Aurélien Deleu, quand vous, à vous, d'un point de vue professionnel, quand vous voyez la virtuosité finalement de cette gestion prudentielle et en même temps offensive, puisque vous n'avez cessé de vous développer sur des lignes métiers, avec une véritable porosité entre les lignes métiers, on voit tout à fait l'intérêt d'un groupe. Vous pourriez promouvoir cette idée auprès de vos principaux clients en disant que la diversification intelligente est une des règles de base.
On la préconise, hein, puisque c'est vrai que quand on est dans des périodes un peu incertaines comme celle-ci, avec des crises sur certains secteurs, le fait d'avoir du revenu récurrent, pour un promoteur, ça lui permet aussi d'avoir une deuxième jambe sur lequel porter, de passer un petit peu la période chahutée, et puis de pouvoir continuer à lancer de nouvelles opérations. Donc c'est sûr que en tant que banquier, on est entre guillemets plus à l'aise avec un opérateur qui a diversifié ses activités, diversifié ses revenus, qu'être mono opérateur sur une activité.
On est même allé jusqu'au bout du métier de l'administration de biens. En 2021, j'ai proposé à la présidente du tribunal judiciaire d'être nommé administrateur provisoire pour des copropriétés dégradées.
Ça, c'est bien.
Alors aujourd'hui, ça faisait évidemment rêver personne. Ça continue de faire fuir certains.
Ça fait, mais je vous garantis.
Aujourd'hui, on gère sept ensembles.
Personne ne veut y aller. Donc,
sept ensembles à La Mosson, à Toit-Saint-Martin, pour ceux qui connaissent bien la ville de Montpellier. Un petit peu plus de 1200 lots. Ce sont des copropriétés où vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros d'impayés copropriétaires, d'impayés fournisseurs.
C'est non profit.
On a une rémunération aujourd'hui qui est dédiée par des aides de l'État. On a une équipe dédié là-dessus, je gagne zéro là-dessus, j'ai sept collaborateurs qui œuvrent 24 sur 24 pour aider des résidences, ceux qui connaissent bien Montpellier, à La Mosson, l'Espérou, la Tour Saint-Martin, où je vous conseille pas forcément d'y passer si vous n'êtes pas accompagné.
Oui, ça dépend de l'heure de la nuit ou du jour, bien évidemment. Merci beaucoup Mathieu Massot, applaudissements pour Mathieu Massot. Je rappelle... On a un public très chaud aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur général de FDLI et vous m'avez promis, vous venez me voir à Paris dans nos studios, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous restez avec nous, notre prochaine invitée qui sera sur le plateau, c'est Véronique Rantet qui est directrice générale déléguée du groupe Proméo. C'est tout de suite après ça.
Parlons territoire d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.
Salut les amis, vous êtes bien sûr à Montpellier pour Parlons Territoire, puisque nous allons au contact des territoires pour parler d'immobilier, pour parler de l'habitat. L'habitat, c'est véritablement le lieu de l'intime, c'est le lieu où se forgent les destins, c'est le lieu où se créent également les liens avec la collectivité. C'est bien de ça dont on parle lorsqu'on fabrique de la ville, des morceaux de ville. Je connaissais un architecte qui disait « quand je fais un immeuble, je plante de la ville ». J'aime beaucoup cette idée de planter de la ville. Au-delà des clichés du béton, qui sont des clichés largement éculés, ou de la vision du promoteur avec les Ray-Ban et le costume à rayures, tout ça a bien évidemment vécu. Mais dans l'esprit du public, c'est parfois un petit peu trop présent. Et on va justement déconstruire cette image pour dire que nos amis promoteurs, les opérateurs immobiliers, sont aussi des acteurs citoyens du territoire. On l'a vu avec Mathieu Massot, on l'a vu avec du côté public avec Anna de Dieu, et on le voit avec notre invité que j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau. Bonjour Véronique Rantet.
Bonjour messieurs, merci de votre invitation.
C'est un plaisir de vous voir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée du groupe Proméo. Alors moi j'aime beaucoup les groupes familiaux.
Voilà,
j'adore les groupes familiaux.
Il
y en a qui aiment les sushis, moi j'aime les groupes familiaux. Alors, ouais. Proméo, c'est une entreprise familiale qui est bien implantée sur l'immobilier régional, très ancrée dans le territoire. Moi j'aimerais juste, voilà, de point de vue anecdotique, nous rappeler ce groupe familial qui s'est construit. From scratch, à partir de rien, d'ailleurs même le rien pour démarrer, vous l'aviez pas. Hein, et comme dirait notre ami Raymond Devos, rien c'est rien, trois fois rien c'est déjà quelque chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord ce que vous faites et ensuite on entrera un peu plus dans le vif du détail?
Tout à fait. Donc Proméo, effectivement, est une société familiale avec ses fondateurs Gilbert et Olivier Ganivin, qui sont... cette société s'est créée il y a plus de 45 ans à Sète. Elle est très attachée à son territoire, puisque depuis l'origine, nous n'avons pas changé de zone géographique. Nous sommes toujours à Sète, ses dirigeants aussi. Également à travers les projets que nous développons, puisque la 50% de la production en promotion immobilière est réalisé dans notre région. Et c'est également dans notre jardin que sont parties les initiatives et les développements divers, notamment je pense au camping, à l'hôtellerie de Ténère, pardon, où les premiers sites ont été acquis à 7. En tout cas en très grande proximité, également sur l'habitat flottant, qui est une initiative de Proméo, qui se situe à Gruissan.
L'habitat flottant. Est-ce que c'est les petits chalets sur pilotis que l'on voit sur la plage?
Pas les chalets de Gruissan, ouais, mais c'est effectivement un îlot qui est sur le port de Gruissan.
Ah, je vois très bien.
Voilà, et qui est un habitat touristique.
Il y a un très bon vin à côté. Le château Le Bouis, vous connaissez?
C'est possible. Voilà. Il y en a pas mal dans la région. Donc c'est ce qui anime un petit peu effectivement notre société. Et ce qui la caractérise également, c'est que Proméo a toujours pensé ses projets pour le plus grand nombre et non pas sur un segment privilégié, à l'image un petit peu de la diversité de la population qui compose le territoire de l'Occitanie.
Alors justement, voilà. Nous aussi, chez Arca, on aime les groupes familiaux.
Oui.
Voilà. Et on parlait justement, alors on revient parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, hein, le sujet de la diversification des activités, puisque c'est, on va dire, c'est un peu dans l'ADN du groupe Proméo, puisque voilà, on est sur des opérations qui sont de plus en plus complexes, avec des attentes particulières, des usages. Vous êtes promoteur, vous l'avez dit, hein, mais vous avez développé également une foncière, vous êtes sur des sujets d'hôtellerie, et vous développez également des tiers-lieux. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette diversification d'activités et puis nous faire un zoom sur l'opération emblématique concernant les tiers-lieux sur le beau territoire montpellierin?
Diversification d'activités, quand on voit l'intervention de Mathieu et la diversité, c'est là qu'on comprend la virtuosité de votre métier et de l'anticipation dont on fait preuve les fondateurs et l'ensemble du groupe.
Tout à fait, sur un positionnement qui reste quand même, on est un opérateur privé sur le marché libre. Voilà, donc on est vraiment sur ce périmètre-là, ce qui est pas tout à fait, ce qui est un peu différent de mon confrère qui vient de s'exprimer. La diversification, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hôtellerie plein air en 2006, donc il y a déjà presque 20 ans, et aujourd'hui et depuis quelques années, Proméo est organisé autour de 3 pôles. Le pôle immobilier, bien évidemment, un pôle gestion avec une branche tourisme-hôtellerie et un pôle gestion d'actifs, avec hybride notamment, et un pôle foncière. Voilà.
Quand vous dites hybride, qu'on comprenne.
C'est une société commune qui gère notamment les tiers-lieux et les blocs d'actifs. Voilà. Tout ça forme effectivement un chiffre d'affaires consolidé à l'avancement de 46 millions d'euros. 81 millions de capitaux propres et une trésorerie mobilisable de 60 millions. Ce qui nous permet, en tout cas, dans le cadre de cette diversification...
Quelle musique très douce à l'oreille d'un banquier.
Voilà. Mais on les aime beaucoup, nos banquiers.
Oui.
On est extrêmement
attentifs. Vous savez, les
banquiers
ont beaucoup d'amis par nature. Voilà, c'est extra... Non, mais je fais un peu d'humour, mais c'est important parce que je peux pas m'empêcher de penser également à vos confrères qui ont beaucoup souffert, qui ont vu leur trésorerie fondre comme neige au soleil, on le sait. Et heureusement qu'il y a des banques comme Arkéa, et je le sais puisque je l'ai vu, donc c'est pas uniquement parce qu'on m'a demandé de le dire qu'il faut le dire, c'est que vous avez aidé, soutenu effectivement. C'est important de voir aussi que tout ça, c'est le résultat aussi d'une gestion très prudente.
Très prudente, oui, tout à fait.
Très prudente. Tout en ne perdant pas le côté innovant, parce que vous avez parlé d'hôtellerie, et je sais que vous êtes très humble là-dessus, vous êtes quand même devenu le premier opérateur hôtelier européen.
Sur le camping, oui.
Voilà. Excusez-moi, voilà, bravo.
Donc c'est effectivement une agilité.
Ça mérite les applaudissements du public. Hein.
Dans l'état d'esprit qui nous anime, effectivement, c'est cette agilité qu'on veut absolument conserver, quelle que soit dimension que peut prendre les développements que l'on met en place, que l'on lance, et également la sécurité financière de l'entreprise, puisqu'on est vraiment on arbitre sur nos propres investissements et la durabilité démontre qu'on ne s'est pas pour l'instant trop trompé. Donc par rapport à cette diversification, hein, l'illustration, c'est effectivement le projet Alnova, qui est situé dans la ZAC Cambacérès, qui est un projet qui a été lancé au printemps 2024. Et qui est le fruit d'une très bonne collaboration entre donc hybride, Amétis Proméo, le groupe Lazare, la ville de Montpellier, la métropole et Altemed. Donc c'est cette communauté d'intelligence qui a permis de sortir ce projet extrêmement innovant et ambitieux. Ça représente 27 000 m² développés, dont 22 000 m² de bureaux et un socle actif de 5 000 m² qui comprendra notamment une halle gourmande, des commerces et des services innovants. C'est un ensemble immobilier composé de 4 plots élevés sur 5 étages, près de 500 places de stationnement, 3500 m² d'espace planté, 2 serres, 3 patios végétalisés, pour un coût de construction de 45 millions d'euros et 565 emplois créés.
Et ça va être livré quand, alors, ce chantier?
Fin 26.
D'accord.
Normalement. Donc, on le voit quand on passe sur l'autoroute. Ouais. Donc, on voit que ça...
Belle réussite.
C'est un projet extrêmement... qui a été réalisé avec le concours du cabinet d'architectes Taliandier et Associés. Donc, c'est un immeuble tertiaire nouvelle génération, dédié à l'innovation, à l'offre de services diversifiés et éco-responsables. Il représentera à terme un écosystème réunissant des espaces de travail, de formation, de coworking, des espaces de loisirs, de partage, ce qui renvoie vraiment à la mixité des usages actuellement très très marquée.
C'est un projet qu'on attend avec impatience ici sur le territoire.
Et j'ajouterai, pour tous, que ce que vous avez créé, c'est une agora sociétale dans laquelle tout le monde peut se rencontrer. Tous les moyens, toutes les bourses possibles, du plus riche au plus modeste, et je trouve ça extrêmement remarquable. C'est un vrai acte citoyen également dans la mixité des usages que vous avez développé. C'est presque une icône ce que vous êtes en train de créer.
On va lui donner sa chance en tout cas à terme, mais il traduit effectivement aussi une forte ambition environnementale, avec notamment ces nombreux mètres carrés d'espace vert, donc les serres, les toitures végétalisées, en créant une espèce de cohabitation entre la ville et la nature. Là aussi, ça renvoie à une actualité, à nos modes de vie actuels qui changent et dont il faut tenir compte absolument dans les projets que l'on crée actuellement. Proméo s'implique énormément dans ce projet phare à plusieurs titres, en tant que maître d'ouvrage, je l'ai dit, avec Amétis et Lazare Group, en tant qu'investisseur à travers Foncière Nova, puisque nous avons acheté avec le Crédit Agricole et le groupe Batipar les 5000 m² d'actifs, et effectivement en tant que futur gestionnaire de cet ensemble. Donc on espère que ce projet à terminaison sera un réel outil d'attractivité territoriale, en devenant un catalyseur à la fois de l'innovation et de l'entrepreneuriat, qui est une valeur extrêmement importante à nos yeux, en accueillant, nous l'espérons, des entreprises nationales, régionales et internationales.
Bravo, bravo. Respect. On va parler des choses qui fâchent. La crise du logement, vous le savez, c'est une crise qui est très dure. Je rappelle juste des chiffres. On a doublé le nombre de personnes sans domicile fixe dans le dernier rapport de l'ex-fondation Abbé Pierre, quand même assez important. On a atteint des sommets sur la demande de logement avec 2 700 000 familles qui sont en attente d'un logement social depuis plus de 5 ans. 4 500 000 foyers en attente d'un logement plus décent. On voit que c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce contexte-là, vous, Proméo, vous êtes vraiment très engagé dans l'accession sociale à la propriété. Je peux utiliser le terme accession sociale à la propriété avec des solutions innovantes, même si vous restez dans le registre, vous l'avez dit tout à l'heure, privé. Parce que privé, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de social. Le social, c'est la préoccupation de l'autre et ce n'est pas uniquement l'apanage des EPL, des OPH et toutes les sociétés ou les bailleurs sociaux qui ont leur raison d'exister. Vous avez développé un modèle de location-accession privée hyper innovant et franchement, c'est assez bluffant. Vous allez nous expliquer comment vous l'avez fait, puis surtout pourquoi et qu'est-ce qui vous a motivé à monter ce produit aujourd'hui qui est très singulier en tant que tel.
Alors, ce qui nous a motivés, c'est effectivement de retrouver le sens premier du métier de promoteur, c'est-à-dire de construire et de vendre des logements à des gens pour qu'ils y habitent. C'est de faire rentrer des gens dans le parcours résidentiel privé. D'accord? Donc, et comment on fait ça? Eh bien, on a réfléchi pendant le Covid et on a donc lancé un modèle avec Sésame de location-accession qui permet une plus grande flexibilité dans l'acte d'achat, de s'adapter à la situation de chacun, puisqu'ils avaient entre 12 et 18 mois pour devenir complètement propriétaires de leur logement, c'est le tester avant d'acheter. Voilà. Donc c'était vraiment notre idée de départ, ce qu'on a mis en œuvre.
Celui qui veut acheter pendant un an ou deux,
il peut occuper son logement.
Il paye
et
un loyer.
À son rythme, il paye un loyer qui vient en déduction du prix à la fin. Le prix est bloqué, il n'y a pas d'augmentation.
Mais s'il veut pas acheter après, au bout d'un
Ah, il s'en va.
Il s'en va. D'accord.
Il s'en va.
Mais okay. Mais il teste
le
logement.
Il y en a aucun qui est parti.
Oui, mais bien sûr, il teste le logement et c'est un mécanisme. Ça lui coûte moins cher ?
Ça lui coûte pas moins cher, mais ça permet une souplesse et moins de brutalité dans l'acte d'achat où aujourd'hui, sur du neuf par exemple, vous signez un contrat de réservation, trois mois après vous passez chez le notaire, entre-temps vous avez monté votre permis et vous attendez 24 mois qu'on vous remette les clés, entre-temps vous payez les intérêts, etc.
Et ça se finance comment ?
Alors ça se finance, CESAM, donc la filiale qui était dédiée à ce projet-là, achetait les logements, ce qui permettait justement de proposer à nos clients ce temps de gestation pour passer du statut de locataire à celui de propriétaire.
Dans le cas d'une foncière, en fait, un
dans
peu temporaire,
foncière,
c'est ça
voilà.
D'accord.
Alors, donc ça, c'est ce qu'on a démarré après.
C'est un peu l'initiative de Néo Proprio avec Xavier Lépine, peut-être.
Voilà,
dans
ça
son,
peut avoir...
Non, mais c'est une... Parce que vous savez, quand on achète une voiture, parfois, on la loue.
Oui.
Et on a une option d'achat. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'inventer le leasing immobilier, finalement, d'une certaine mesure ?
Alors, c'était un peu ça. Il y avait l'idée.
Voilà, une location avec option d'achat.
Avec quand même l'accompagnement du client vers justement cet objectif qu'il ne peut pas rester dans le logement au terme de la du délai de location.
D'accord.
Mais en tout cas, ça permet de débloquer des situations et de permettre à des gens qui pensent que ce n'est pas possible et cela devient possible.
Et ça, c'est le sens de ma question. Est-ce que ça permet justement à des personnes qui ne seraient pas entrées dans le scoring ou
tout
les ratios du crédit, puisque du coup, c'est vous le prêteur.
Alors non,
non mais
c'est pas nos prêteurs, mais
vous êtes le
propriétaire.
Vous êtes le propriétaire.
Ouais.
Alors oui, c'est un crédit vendeur.
C'est un crédit vendeur de temps.
D'accord.
De durée.
Alors un crédit vendeur, mais il faudra bien une banque à un moment donné.
Et il y avait justement un accompagnement.
Ce mécanisme bancaire, est-ce que vous avez, vous étant foncier, vous préconisez forcément le financement de vos clients? Vous les aidez?
Oui, on
d'accord.
les accompagne.
Vous les accompagnez, donc du coup, vous avez négocié avec la banque, l'organisme financier, vous le propriétaire, d'une certaine facilité, entre guillemets, avec les scores qui correspondent. Mais est-ce que des personnes, vraiment ma question est très précise, est-ce que des personnes qui sont passées par ce stade, et qui seraient passées par ailleurs dans le classique, n'auraient pas pu accéder à la propriété? Est-ce que votre solution, moi ce que je vois, c'est que ça permet à des personnes qui seraient sorties du parcours, pouvoir accéder à la propriété.
Oui, on a eu des exemples effectivement de jeunes couples où ils venaient d'arriver dans la région. Ils n'avaient pas encore eu
fiche de paye.
Le dossier administratif suffisant. Et ce délai-là leur a permis de constituer le dossier et donc d'obtenir le crédit qu'ils attendaient pour devenir propriétaire.
Aurélien.
On met en avant, c'est sûr que on est sur des innovations parce qu'on n'est pas sur du PSLA classique qui répond à des plafonds de ressources, mais sur une innovation privée, donc c'est intéressant de la mettre en avant.
Je voulais juste préciser quelque chose, c'est-à-dire que c'est vrai que la location accessoire, c'est toujours quelque chose qu'on pratique, même si on a rencontré des difficultés dans
avec la hausse des taux, c'est sûr que c'était...
Dans le sourcing produit, parce que ce portage a eu un coût x5 avec l'augmentation du crédit bancaire, parce que elle empruntait quand même pour acheter. C'est bien. C'était aussi une possibilité dans le neuf et dans l'ancien. Donc, ça a beaucoup mieux fonctionné dans l'ancien.
Logique.
Il n'y a plus du tout de barrière.
Mais c'est une super idée pour l'ancien, en fait. Parce qu'en plus, quand vous achetez dans l'ancien.
Oui.
Vous achetez dans le diffus, vous achetez pas, ou en bloc.
En bloc.
Alors, quand vous achetez en bloc, vous régénérez.
Exactement.
Et donc, en fait, vous redonnez vie à des bâtiments
tout à fait.
Qui étaient parfois obsolètes, dont les valeurs ont été décotées, parce que je suis sûr que vous avez acheté à des prix décotés, puisque vous avez fait les travaux qui vont bien. Parce que vous ne mettez pas les locataires si vous n'avez pas fait les travaux qui vont bien.
On a choisi d'investir dans des immeubles où on était déjà...
plutôt bien. Ah
plutôt
d'accord,
bien.
Ok. Donc, vous n'êtes pas dans l'axe de dire, je vais rénover.
C'était pas de la rénovation.
Amélioration sur les 7 lettres énergétiques, par exemple, de passer d'un immeuble qui est classé G et placé en B ou en C.
C'était pas la démarche.
Ah, ok,
c'était
mais ça pourrait.
Dans l'idée,
ça parce que c'est le marché aussi important. Intéressant, extrêmement intéressant.
Et donc, la difficulté de sourcing a fait qu'on a limité quand même les investissements. Pour autant, Proméo continue. Je dirais sans tête, à essayer de décoincer, en tout cas de trouver des solutions sur le marché de l'accession.
Vous ne vous êtes pas mis en pause.
On ne s'est pas mis en pause, mais on a lancé un pass Sésame, qui là pour le coup est sur le neuf, qui est une offre dédiée à l'accession à la propriété, qu'on ne lance uniquement dans le département de l'Hérault, puisque la location accession nous a appris que la proximité pour le marché de l'accession à la propriété est très importante. Donc on va travailler en proximité. C'est une offre globale, clé en main pour le client, qui comprend un positionnement prix extrêmement agressif sur le marché libre, hein, on est d'accord.
Quand vous dites agressif, vous avez compressé vos marges ?
On a tout compressé.
Ou vous travaillez à marge zéro ?
On a tout compressé.
Pas marge.
Je vous rappelle
encore. Mais encore.
Le banquier ne finance pas à marge zéro.
Hein, c'est compliqué.
Voilà. Là, moi, je suis bien encadré.
Non, mais voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous donner vos chiffres, mais
je ne donnerai pas de chiffres.
Mais vous arrivez
mais vraiment, on a essayé d'avoir ce positionnement de prix qui est.
Donnez-moi un pourcentage d'écart par rapport à un produit à périmètre constant équivalent. Entre, c'est moins 10, moins 15 ?
Entre, à peu près moins 15.
Pas mal.
À peu près moins 15.
Pas mal. Même dans l'ancien ?
Non, là, on est sur le 9.
Sur le 9, d'accord.
Uniquement sur le 9.
Allez,
on est
mal.
Sur le 9.
Bien.
On est sur le 9. Pour essayer justement d'avoir cette diversité, cette mixité au sein des immeubles, puisqu'on sait qu'une opération, elle est sécurisée par des ventes en bloc, et qu'il faut quand même réussir.
Mais qu'on soit clair, moins 15, parce que l'objectif, c'est de vendre, hein, on est d'accord.
Parce que c'est le prix du marché,
parce que c'est le prix
qui est en corrélation avec la capacité des gens. C'est ça qu'il faut essayer de retrouver.
C'est intéressant ce que vous dites. Vous voulez rapprocher la valeur du prix de l'immobilier au pouvoir d'achat.
Oui.
Parce que ce qu'on a vu ces dernières années, c'est une décorrélation entre le revenu des Français et le prix de l'immobilier. Forcément, ça pouvait que coincer.
Donc au-delà du prix, qui est quand même l'élément le plus important, c'est aussi un accompagnement très fléché au niveau du financement bancaire, puisqu'on a des banques partenaires à qui on va envoyer nos clients pour qu'ils soient pris en main, quel que soit, et de manière un peu sur mesure, on va dire. C'est également la prise en charge par nos soins des premiers frais jusqu'à la livraison des logements.
Question.
Ouais.
Est-ce que vous achetez le chat et les plantes qui vont bien ?
Non.
Non ? D'accord. Bon.
Mais on fait en sorte que y ait le moins d'impact possible sur les clients jusqu'à la remise des prêts.
Ouais, c'est clair. Aurélien, dernière question.
Ah oui, pour conclure justement, le groupe s'est aussi illustré à travers des opérations emblématiques, notamment d'un point de vue architectural. Je pense notamment au projet de l'arbre blanc aujourd'hui qui illumine et qui est un symbole architectural de la ville de Montpellier, qui était d'ailleurs un appel à projet qui avait été lancé par la ville. Comment ce projet est-il né ? Comment il vit aujourd'hui ? Et continuez-vous à vous positionner sur ce genre d'opération ?
Alors, c'est vrai que l'arbre blanc, de par son architecte, Sō Fujimoto, a rencontré extrêmement rapidement un succès mondial. Il a été consacré comme le plus beau bâtiment résidentiel au monde en 2020. Donc c'est quand même très gratifiant pour un opérateur comme nous. Mais ça illustre pas mal notre démarche parce que c'est d'abord une vraie rencontre avec des partenaires. Proméo fait souvent avec d'autres. Et c'est le cas pour l'arbre blanc. C'est la passion d'une équipe. C'est une aventure fantastique avec beaucoup d'intelligence collective. Et du coup, on a été assez surpris en fait de que ce rêve devienne réalité aussi facilement. Ça a montré également le niveau d'expertise qu'on pouvait atteindre pour un promoteur, comme je l'ai dit, privé et régional. Et on a réussi en tout cas une concordance entre une ambition architecturale très forte et un équilibre financier. Comme quoi, c'est parfois possible.
Comme
et
quoi,
ça a été le cas.
Comme quoi, le bien peut être un élément du beau et vice-versa. Vous avez fait un très bel ouvrage. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Nietzsche qui avait dit ça. Le beau est un élément du bien. Mais ce que je veux dire, c'est que il est à la fois accessible et en même temps, vous avez, on veut dire que le modèle économique a trouvé c'est la rencontre du modèle économique et de la beauté architecturale. Et les résultats, c'est pas fait attendre puisque vous avez été classé par un. Alors, tout le monde n'aime pas Fujimoto parce qu'il est il est un peu comme Lipskin ou d'autres architectes un peu particuliers, on peut même dire très très particuliers.
Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont qui sont en cours de...
Ah, alors oui, il y en a un qui est en cours d'étude.
Vous aimez ça, hein, chez Proméo, d'avoir ce type de produit très... C'est un peu iconique, on est d'accord.
Oui, ça reste des opérations emblématiques. L'ensemble de nos projets ne peuvent pas être ceux-là. Et le prochain, c'est Almatera. Donc, c'est un ensemble qui est en copromotion avec Pichimo. Qui a été lauréat des Folies architecturales 2023 et avec le cabinet d'architecte Manuel Gautran.
Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Véronique Trampos, restez avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée du groupe Proméo. On aime beaucoup, effectivement, je vous le disais, les groupes familiaux. Alors, je voudrais vraiment remercier tout le monde. Relayer, c'est important. Qu'on remercie tous les collaborateurs qui ont permis la réalisation de cette émission, avec Nelly Briand aux commandes pour l'organisation. Un petit clin d'œil à Nelly, ainsi que Baptiste aux commandes, notre directeur artistique, Alexandre Burkhardt, tous les producteurs de l'émission, les équipes d'Arkea, les équipes de Radio Humo, le lieu dans lequel on se trouve, qui est hyper important. Un grand merci à Anna de Dieu d'être venue également sur le plateau, au grand et beau Mathieu Massot. D'ailleurs, quand il vient, j'ai toujours l'impression que c'est de la concurrence déloyale. bien évidemment. Voilà, un petit clin d'œil à Marion également. Je voudrais également vous remercier, Véronique Rantet. Vous représentez votre groupe, ce groupe Proméo, avec la passion, et je pense que rien ne saurait résister aux accents de la passion. Et je pense que c'est une très très bonne idée de continuer dans ce sens-là. Aurélien, bientôt nous serons en Alsace.
Exactement, on va enchaîner au mois de septembre avec le Parlons Territoire à Strasbourg.
Merci à toutes et à tous, on se retrouve bientôt ici, plutôt à Strasbourg.
Merci.
Partez à la découverte des territoires et de ceux qui les dynamisent avec Parlons Territoire, une émission d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles sur Radio Immo.